BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business. Sandra Gandoin.
Il est presque 7h, bienvenue dans la matinale de l'économie. On est ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. La bataille pour le contrôle du détroit d'Ormuz continue. L'Iran et les États-Unis se sont attaqués pour la troisième nuit consécutive dans ce passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures. Résultat, le pétrole flambe. On va en parler dans un instant avec Annalisa Cappellini. Et puis, dans ce contexte, ce sont 25 chefs d'État et de gouvernement qui seront présents sur les Champs-Élysées ce matin pour le défilé du 14 juillet, cérémonie placée sous le signe, je cite, du réveil stratégique de l'Europe sans les États-Unis. 6800 soldats, une coalition des volontaires autour de l'Ukraine et également des industriels vont fouler le pavé. On sera sur place en direct avec Hugo Babet dans le journal de 7h. Les autres titres, Léo Dumas, ce matin.
Stellantis se relance grâce à l'Amérique du Nord. Carton plein pour les exportations chinoises au mois de juin. Et puis, Didier Deschamps est-il le meilleur DRH de France ?
L'Europe va bien légiférer sur l'accès des réseaux sociaux aux mineurs. On va en parler dans la prochaine heure après la remise d'un rapport d'experts à Bruxelles. Ursula von der Leyen s'est engagée à présenter une proposition de loi après l'été. Est-ce faisable en France comme ça l'a été en Australie ? Réponse dans le débat à 7h10 avec Emmanuel Chypre et Raphaël Legendre. Et puis Emmanuel Macron veut montrer une armée renforcée et modernisée durant son quinquennat. Il a fait des annonces hier. À quoi s'attendre ? En matière de défense, que peut-on espérer de nos voisins européens ? On va en parler avec Alexandre Delahousse, directeur adjoint de la DGA. Ce sera à 7h45 dans le Grand Entretien. La matinale de l'économie, c'est parti. Soyez les bienvenus.
Écoutez BFM Business dans les grandes villes de France. En live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Good morning business, le journal.
Et le pétrole s'envole, Léo.
$85 ce matin pour le baril de Brent qui a pris quasiment 10% sur la journée d'hier. Plus forte hausse en 24 heures depuis la sortie du Covid dans ce contexte de tension maximale au Moyen-Orient avec les États-Unis et l'Iran qui se sont encore attaqués cette nuit pour la troisième fois consécutive. Et surtout, Annalisa Cappellini, c'est le retour du blocus américain dans le détroit d'Ormuz.
Oui, et Donald Trump lui parle même d'un blocus iranien sur sa plateforme Truth. Pourquoi iranien ? Parce que ce blocus empêche uniquement les navires et les clients de l'Iran de rentrer ou de sortir du détroit, selon Donald Trump. Pourtant, depuis le 18 juin dernier et depuis la signature de l'accord cadre, la navigation avait repris progressivement dans le détroit et repris de manière plutôt libre. Eh bien, c'est terminé, selon le président américain qui a annoncé sur Fox News que les États-Unis vont prendre le contrôle du détroit, je le cite, et en devenir les gardiens. Ils vont aussi prélever au passage une taxe équivalent à 20% des cargaisons, selon Donald Trump. C'est un souci d'équité, c'est une manière de rembourser les Américains pour le danger auquel ils se sont exposés pour sécuriser le détroit. Oui, le président américain a tout à fait raison, c'est la réponse ironique de l'Iran, du ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi. Oui, quiconque assure le passage dans le détroit d'Ormuz devrait être rémunéré pour ce service, c'est la réponse de Téhéran, mais c'est bien l'Iran qui a toujours été le gardien du détroit et qui le restera pour toujours. Les Iraniens, justement, considèrent que le détroit est fermé jusqu'à nouvel ordre et continuent donc leurs attaques sur les navires qui transitent par le détroit. Les Émirats arabes unis ont rapporté dans la nuit des attaques de missiles iraniens contre deux de leurs navires dans le détroit d'Ormuz. Des attaques qui ont fait une victime parmi les membres de l'équipage.
Merci Annalisa. Et alors à ce stade, une réaction dans la communauté internationale à ce projet de taxe de Donald Trump. C'est le président Lula du Brésil qui visiblement est consterné. Écoutez.
À l'époque, ça s'appelait de la piraterie. Un grand pays comme les États-Unis, qui à mon sens combattait pendant longtemps la piraterie, ne peut pas aujourd'hui devenir lui-même un pirate. Il ne devrait pas faire payer.
Não bote agora virar pirata. Ele não tem que cobrar.
Le jour, un jour de fête nationale en France, Léo, et ce défilé du 14 juillet XXL pour la dernière d'Emmanuel Macron.
Avec un budget militaire multiplié par deux, depuis 10 ans, le chef de l'État veut marquer les esprits. Les troupes se préparent en ce moment sur les Champs-Élysées où vous êtes en direct pour BFM Business, Hugo Babet. Alors c'est vraiment une démonstration de force qui est attendue aujourd'hui, tant française qu'européenne.
Oui, l'Elysée a vu les choses en grand pour ce réveil stratégique, le thème de ce 14 juillet 2026. 6800 militaires à pied, un record avec 15% de plus que l'an dernier, mais aussi 30% de plus de chars et 30% de plus d'aéronefs supplémentaires. Une armée également modernisée, on verra ce matin les nouveaux chars Jaguar et une soixantaine de drones. La priorité de l'armée française qui veut en produire beaucoup plus encore, Emmanuel Macron le disait hier. Et ce réveil stratégique, il est aussi européen. L'ouverture du défilé sera faite par 500 militaires européens venant d'une trentaine de pays de la coalition des volontaires. Les chefs d'État étaient invités hier. Ils assisteront aujourd'hui au défilé militaire du 14 juillet. Et enfin, l'Ukraine sera mise à l'honneur. 25 militaires défileront et deux Mirage 2000 français seront pilotés par un binôme, un militaire, un aviateur français et un aviateur ukrainien.
Hugo Babet en direct des Champs-Élysées ce matin pour BFM Business. Quand dans le secteur de la défense, justement, il y a Helsing qui vient encore de passer un nouveau cap puisque la start-up allemande lève 1,8 milliard de dollars avec notamment Goldman Sachs et JP Morgan. Elle est maintenant valorisée 18 milliards. C'est donc la start-up numéro 1 en Europe dans le secteur de la défense, Jean-Baptiste Huette.
Créé en 2021, Helsing vendait au départ surtout des logiciels d'intelligence artificielle pour les armées. Mais depuis la guerre en Ukraine, l'entreprise s'est transformée en véritable industriel de défense. Le groupe fabrique désormais des drones d'attaque, développe des navires autonomes et veut concurrencer directement les grands groupes historiques de l'armement. En Allemagne, Helsing a déjà décroché cette année une commande de 270 millions d'euros pour des drones, ainsi qu'un contrat de 223 millions pour un logiciel expérimental de combat. Helsing possède aussi des bureaux en France. Le groupe a d'ailleurs récemment passé un partenariat avec Eurenco pour la fourniture de têtes explosives, bureau également au Royaume-Uni et dans les Pays-Baltes. Helsing reste majoritairement détenu par des investisseurs européens, malgré l'arrivée de grands fonds américains. Alors que Rheinmetall a récemment été sanctionné en bourse et que KNDS a reporté son introduction, Helsing montre que les investisseurs restent prêts à miser massivement sur la défense européenne, mais deviennent beaucoup plus sélectifs sur les dossiers et les valorisations.
Et puis Stellantis redresse ses ventes, Léo.
Oui, ses livraisons mondiales sont en hausse de 10% sur le trimestre écoulé, de bon augure avant la publication des résultats complets du groupe dans 15 jours. Surtout que c'est l'Amérique du Nord qui permet à Stellantis de se redresser, Clara Bido.
Au deuxième trimestre, les livraisons ont bondi de 38% outre-Atlantique, avec 445 000 véhicules écoulés. Et sur l'ensemble du premier semestre, les volumes progressent de 27%, bien plus qu'en Europe. Une reprise notamment portée par les nouveaux modèles lancés ces derniers mois. L'Europe reste malgré tout le premier marché du groupe, avec près de 1,4 million de véhicules livrés au deuxième trimestre. Les nouveaux modèles, comme les Citroën C3, Citroën Aircross ou Fiat Grande Panda, voient leurs ventes grimper de 51% sur un an. Une croissance globale portée par les livraisons de véhicules électriques également réparties entre Stellantis et son partenaire chinois Leapmotor. En revanche, les ventes du groupe reculent de 3% au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud, des zones pénalisées par les conflits régionaux et la faiblesse du marché argentin. Des résultats qui confortent la stratégie du directeur général Antonio Filosa, faire de l'Amérique du Nord la priorité du groupe, avec plus de 60 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans.
Il est 7h07 et le chiffre de la nuit arrive de Pékin. Le commerce extérieur de la Chine qui progresse bien plus qu'attendu au mois de juin, plus 27% sur un an selon les douanes, aidés notamment par une embellie des exportations vers les États-Unis. Elle grimpe de 14% le mois dernier. Signe positif aussi pour la demande intérieure. Les importations battent les attentes et progressent de 36% sur un an.
France-Espagne, à 21h, Léo, vous serez debout ?
Absolument, pour la demi-finale du Mondial, avec des Bleus qui ont brillé jusqu'ici par leur cohésion, sous l'impulsion évidemment de Didier Deschamps, peut-être le meilleur DRH de France. Il y a en tout cas dans son management quelques bonnes pratiques qui peuvent inspirer le reste du monde du travail, Erwan Maurice.
Didier Deschamps est souvent présenté comme un manager hors pair. Selon Florent Gautreau, journaliste After Foot et intervenant en entreprise, il faut dire qu'il a été à bonne école, celle d'Aimé Jacquet, entraîneur de l'équipe de France 98.
Aimé Jacquet avait construit un groupe, pas forcément avec les meilleurs joueurs de l'époque, puisqu'il avait exclu, entre guillemets, Cantona, Ginola, mais il avait l'idée d'un groupe qui pouvait réussir. Et l'idée de 98, c'est un groupe auquel personne ne croyait, pas grand monde en France, et qui a fini par gagner la Coupe du Monde, et la première en l'occurrence. Et Deschamps, lui, a gardé ce fil conducteur de la volonté, sur un tournoi, d'avoir avec lui un groupe, pas forcément toujours avec les 26 meilleurs joueurs du moment, mais avec les 26 joueurs qui vont s'entendre.
Des choix payants car ils sont faits dans une vision de long terme.
C'est un pragmatique. Et s'il le fait, c'est avant tout parce qu'il pense que ça peut lui rapporter en termes d'efficacité, de résultats finalement. C'est comme une entreprise, on le fait parfois parce qu'on s'entend bien avec les gens, puis on le fait aussi parfois en se disant bah, ça va me servir parce que cet élément-là est un excellent élément.
L'entraîneur des Bleus qui s'est aussi adapté à la génération.
Il a pris un hôtel en ville, il leur a permis de sortir un peu le soir sur quelques heures et je pense que Deschamps évolue avec son temps, c'est aussi ça son intelligence et il pense qu'ils vont recueillir les bénéfices.
Didier Deschamps qui serait donc en entreprise dans la team télétravail et équilibre vie pro-vie perso.
Allez, 7h09 sur BFM Business, les marchés. C'est le chiffre qu'on a regardé ce matin, Nicolas Pagnès. Le pétrole qui continue sa progression, il a même dépassé les 85 dollars.
Oui, les marchés semblent un peu moins optimistes qu'hier sur une désescalade rapide des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Après une nouvelle salve de tirs américains qui a eu lieu cette nuit, pour la troisième nuit consécutive, les prix du pétrole ont bondi de 9%. Le baril de Brent a ainsi dépassé les 85 dollars, tandis que le WTI s'est lui juste hissé en dessous des 80 dollars, des niveaux que l'on n'avait globalement pas connus depuis un mois et qui montrent que même si l'on est encore loin des 110 dollars sur le baril de Brent, que la vigilance sur les difficultés d'acheminement dans le détroit d'Ormuz grandit progressivement. Cette hausse des cours du pétrole a d'ailleurs eu un impact direct sur les marchés. D'abord sur les marchés obligataires, le 10 ans américain s'est retendu légèrement à 4,62%. Le 30 ans américain s'est tendu également à 4,67%. L'OAT 10 ans est à 3,88 à l'heure actuelle. On verra à l'ouverture dans une heure à peu près ce qu'il en est donc sur la dette française. On voit que les marchés américains on clôturait en ordre dispersé, hein, le S&P 500 perdait 0,7%, le Dow Jones 0,3%, le Nasdaq lui clôturait dans le vert. En revanche, en Asie, pour l'instant, les marchés actions sont orientés dans le rouge en lien avec cette remontée des tensions dans le détroit d'Ormuz.
Et puis aujourd'hui, Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed, prend la parole devant le Congrès.
Oui, ce sera une intervention suivie de près puisqu'il interviendra notamment en lien avec le rapport semestriel de politique monétaire de la Fed publié vendredi dernier. Cela devrait donner des éléments au marché pour comprendre la vision du nouveau président de la Fed en matière de stratégie monétaire, alors que le rapport constate que l'inflation a de nouveau accéléré sur la première partie de l'année à cause des droits de douane, de la guerre en Iran, mais aussi du développement des infrastructures en matière d'intelligence artificielle. Le rapport fait état d'un marché du travail résistant, d'une croissance américaine modérée de 2,1% en rythme annualisé. Et on note également, hein, en parallèle de cette prise de parole de Kevin Warsh, que Christopher Waller, un gouverneur de la Fed, généralement connu pour faire partie des colombes et donc partisan d'un soutien de la Fed à l'économie, s'est exprimé cette nuit en disant que celle-ci devait se tenir prête à relever ses taux à court terme si l'inflation continue d'évoluer dans la mauvaise direction.
Merci Nicolas Pagnès. Le débat tout de suite.
Good morning business, face à le Chypre.
Face à le Chypre, il y a Raphaël Legendre ce matin, 14 juillet. L'Europe va bien légiférer sur les réseaux sociaux, l'accès des réseaux sociaux aux mineurs. Après la remise d'un rapport d'experts à Bruxelles, Ursula von der Leyen s'est engagée à présenter une proposition de loi après l'été. Messieurs, l'exemple qui a été fait, c'est l'Australie. Les premiers résultats sont probants. Est-ce que c'est pertinent chez nous, Raphaël Legendre?
Oui, bien sûr. Il est grand temps en réalité parce qu'on est face à une véritable crise sanitaire. On a vraiment laissé nos enfants, on a une génération un peu sacrifié, hein, franchement, de ces 10-15 dernières années, de gamins qu'on a laissés face à des réseaux sociaux dont on connaît maintenant la toxicité. Vous avez eu des milliers d'études pour le prouver et on voit, il y a des chiffres de l'ANSES qui ont prouvé, et de l'OMS, pardon, que la part des adolescents qui présentent un usage problématique des réseaux sociaux ne cesse d'augmenter. On est passé de 7% en 2018 à 11% en 2022. C'est 13% chez les filles. On sait qu'il y a des populations qui sont plus sensibles que d'autres, les filles le sont notamment sur tout ce qui touche au corps. Et là, je vous donne les chiffres de 2022. Je pense que ça a encore progressé. Il est grand temps que l'on régule tout ça. Alors, vous l'avez dit, Sandra, la proposition de Ursula von der Leyen et de la Commission européenne, c'est l'interdiction totale avant 13 ans, une entrée progressive de 13 à 15 ans jusqu'à vous arriver à la majorité et puis là vous vous débrouillez sur les réseaux. Ce qu'il faut absolument, c'est quand même une prise de conscience, moi je pense, des parents qui doivent accompagner. Les parents ne peuvent pas tout. On sait bien qu'en interdisant les réseaux sociaux, bah il y aura sûrement des contournements, mais c'est comme la ceinture de sécurité ou l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs. Ça c'est pas parce qu'il y aura des contournements qu'il ne faut rien faire. On doit absolument réagir. Le sujet derrière, c'est celui de l'harmonisation quand même des interdictions au niveau européen. Vous avez plein de pays qui ont lancé de la régulation, de l'interdiction des réseaux sociaux, des textes de loi. La France, d'ailleurs, pourrait être le premier à y arriver au 1er septembre. Il y a un texte qui est en cours d'adoption. Bon, le sujet, c'est l'éclatement. C'est-à-dire que les plateformes, si on doit les réguler, il faut
comme toujours,
un modèle européen et pas 27, ça serait préférable.
Emmanuel Lechypre.
Il n'est pas question de nier effectivement les effets pervers de ces réseaux sociaux. Hein. Raphaël l'a dit, anxiété, troubles psychiques, effets sur l'image de soi, voire cyberharcèlement, etc. Sauf que la question c'est, est-ce que l'interdiction c'est vraiment la solution à tous ces problèmes ? Et moi j'ai l'impression qu'on se trompe un peu de combat. D'abord parce que l'interdiction, est-ce qu'elle sera applicable ? Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, des plateformes qui, pour beaucoup, sont déjà interdites aux moins de 13 ans. Or, est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche absolument pas. On a des millions de gamins qui utilisent aujourd'hui ces plateformes. Le problème, donc plus que l'âge à mon avis, c'est l'algorithme de ces plateformes, c'est leur modèle. Le vrai sujet, c'est les contenus addictifs, les mécanismes de recommandation, les notifications permanentes, les boucles de récompense, tout ce qui fait que le modèle économique repose sur la captation maximale de l'attention. Donc, à mon avis, il vaut mieux s'attaquer aux plateformes qu'à l'interdiction pour les enfants. Et puis, ces réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment le diable ? Moi, je suis désolé, mais si on prend à l'envers les chiffres que Raphaël a donnés, ça veut dire qu'il y a 9 adolescents sur 10 pour qui les réseaux sociaux, ça se passe bien. Et quand vous regardez les travaux des scientifiques, il y a une méta-analyse qui a été publiée par le Current Opinion in Psychology qui nous dit les réseaux sociaux, ça renforce le soutien social, le sentiment d'appartenance, les relations amicales existantes, la participation à la vie citoyenne. Les effets sont particulièrement positifs chez les adolescents timides, isolés géographiquement, atteints de maladies chroniques. On a des travaux de Dana Boyd qui est l'une des grandes spécialistes mondiales du numérique adolescent, qui nous dit que les réseaux sociaux, ça sert à prolonger les relations scolaires, à organiser les sorties. Donc, ça ne fait pas quitter la vie sociale, ça prolonge la vie sociale. Et on a une autre spécialiste qui est l'université de Cambridge, Amy Urban, qui dit que finalement, les preuves scientifiques sont beaucoup moins alarmistes que le débat politique et que les effets négatifs, ils existent, mais qui restent généralement modestes et variables selon les individus. Donc, la causalité est loin d'être démontrée. Après, il y a les parents, moi je suis désolé, mais c'est quand même ça qui joue aussi beaucoup. Encore une fois, on va les déresponsabiliser. Encore une fois, on va s'en remettre à l'État. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Donc, je pense que le vrai enjeu, c'est l'éducation numérique. L'éducation numérique, c'est quoi ? C'est de dire, c'est pas parce que c'est dangereux de traverser la rue qu'il faut obliger tout le monde à rester chez soi.
Oui, c'est ça. Faut-il légiférer pour un problème qui est subi par une minorité ? Effectivement, c'est une bonne remarque, Emmanuel.
Quand on voit que 73% des 11-17 ans ont vu au moins une fois une forme de contenu nocif au cours des 4 dernières semaines. Vous avez quand même les 3/4 de nos gamins qui, sur ces réseaux, le sujet, c'est pas la sociabilité. C'est très bien d'avoir des échanges de messagerie, etc. Là, il n'y a pas de problème. Il y a des risques de cyberharcèlement quand même, en groupe. Il faut faire attention. Mais là, encore une fois, l'éducation numérique est absolument majeur, et c'est aux parents d'éduquer leurs enfants
à l'école aussi.
Et à l'école aussi. Mais l'école, c'est l'instruction. L'éducation, il y a un moment, il faut aussi rétablir. L'école, c'est l'instruction. Vous apprenez des savoirs. Vous pouvez accompagner, évidemment, aux parents d'éduquer les enfants. L'exposition au contenu nocif, c'est vraiment devenu la règle. Je veux dire, sur ces algos, sur les vidéos, etc., c'est fait pour vous plonger dans une spirale de violence et de nocivité.
On n'est pas sur le même sujet. Les réseaux sociaux.
Vous parlez à vos potes sur WhatsApp.
Si on est précis, tout ce qui est contenu nocif, pornographique, etc., c'est pas les réseaux sociaux.
Bien sûr que si, c'est Instagram, c'est TikTok,
c'est des plateformes spécifiques. C'est pas les réseaux sociaux. Donc encore une fois, oui, toujours. Pareil, il y a des contenus qui sont effectivement nocifs. Mais sur les réseaux sociaux, voilà, moi je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions pour éviter que, effectivement, ce soit pour traiter plus efficacement ce problème.
Merci, messieurs Emmanuel Lechypre, Raphaël Legendre, Le Plus.
Good Morning Business, Le Plus.
Et direction le quartier Austerlitz à Paris ce matin où un immeuble est traversé par le métro aérien. Première en France, achevée en janvier, cette innovation vise à intégrer au mieux les transports publics dans une zone en pleine transformation. Elle accueillera le siège de l'Agence française du développement, des commerces et des logements sociaux, mais aussi un hôtel. Reportage Paul Valère.
Sur le métro aérien entre Gare d'Austerlitz et Saint-Marcel à Paris, les rames de la ligne 5 s'engouffrent sous un bâtiment pont, une construction en suspens de 4 étages qui permet de relier les deux immeubles voisins. Dietmar Feistinger, l'architecte du projet.
Le bâtiment en soi, il n'est pas très efficace parce qu'il y a pas mal de niveaux en fait, qu'on doit libérer pour faire le passage du métro. Mais on a voulu totalement intégrer le passage de ce transport public parce que c'est assez magique en quelque sorte. Et en même temps, créer une connectique entre les différents bâtis du projet.
Pour pouvoir construire le bâtiment pont, il a fallu installer un sarcophage pour protéger le viaduc, une sorte de tunnel recouvert d'immenses dalles de béton pour éviter la chute de projectiles sur les voies et faire en sorte que jamais les travaux n'empêchent la circulation du métro.
Il fallait donc amener des grandes poutres qui franchissent le métro aérien, la nuit. Dans des heures où le métro ne circulait pas, c'était des situations très délicates avec vraiment très très peu de temps disponible pour les poser et après pour fermer en fait le sarcophage. Et après on était en quelque sorte en sécurité.
Ce sarcophage à plusieurs centaines de milliers d'euros, de 40 mètres de long sur 18 mètres de large, a été mis en place il y a un an. Le bâtiment pont qui comprend une structure métallique de 345 tonnes a lui été construit en un mois et demi. Mais le plus délicat aurait été de retirer le sarcophage en janvier dernier, raconte Mathieu Thomas, directeur de programme chez Kaufmann & Broad.
Le monter, c'était relativement simple, on avait toute la place qu'on voulait. Le retirer, il y avait le bâtiment qui était construit, donc il avait fallu imaginer tout un système de poulies pour faire pivoter les dalles les unes après les autres et pouvoir les sortir un peu comme un Lego. Et je pense qu'on a fait ça en une dizaine de nuits à peu près. Donc en fait, en temps de travail effectif, on n'a jamais que deux heures et demie chaque nuit. Bah, c'est un travail de fourmi qui prend pas mal de temps.
En plus des exigences de la RATP en matière de sécurité, il a fallu répondre à un cahier des charges drastique comprenant l'insonorisation des bâtiments. Objectif, rendre le passage du métro imperceptible. Une prouesse presque unique au monde, se félicite l'architecte.
Nous, on a trouvé un deuxième bâtiment en Asie, en fait, qui a vraiment le métro qui arrive dans les bâtiments. Mais là, tu es aussi proche et aussi en contact avec le transport public. Nous, on l'a en quelque sorte célébré aussi à l'intérieur. Vous avez un foyer qui dessert un auditorium.
Ce bâtiment pont était un défi supplémentaire alors que la liste des obstacles sur ce chantier hors norme est déjà longue. Assurer une étanchéité parfaite malgré la proximité de la Seine et d'une nappe phréatique est composé avec les contraintes liées à la ligne de métro 10 voisine. La fin des travaux est prévue pour le second semestre 2027.
Good morning business. Le monde qui bouge.
Le monde qui bouge et nous partons ce matin en Italie avec Annalisa Cappellini, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, présente aujourd'hui Annalisa au Parlement son projet de réforme électorale. Officiellement, l'objectif, c'est de garantir des gouvernements stables. Officieusement, qu'est-ce qui pourrait changer, Annalisa ?
Alors, sur le papier, il n'y a pas de grand bouleversement puisque les Italiens continue à voter pour des listes de partis et le système reste proportionnel. Il y a une grande nouveauté, c'est un bonus de siège pour la coalition arrivée en tête. C'est ce qu'on appelle un prix de majorité. Donc la coalition qui arrive à obtenir au moins 42% des voix va remporter aussi des sièges supplémentaires au Sénat et à la Chambre des députés. On parle d'une centaine de sièges au total, ça représente un cinquième des sièges et tout le reste est distribué parmi les autres partis de manière proportionnelle. Alors pour Giorgia Meloni, c'est la meilleure façon d'avoir une majorité solide et donc d'éviter les crises politiques à répétition. Elle le dit assez clairement. Hier, l'Italie était un pays instable au sein d'une Europe plus stable. Et bien aujourd'hui, l'Italie est perçue comme un pilier de stabilité en Europe. Elle ne veut surtout pas que l'Italie redevienne instable. Il y a un autre changement. Les partis doivent annoncer avant l'élection avec qui ils ont l'intention de gouverner et qui sera leur candidat à la présidence du Conseil. Donc concrètement, il n'y aura plus d'alliance possible après les élections. Tout va se jouer en amont. L'idée, c'est d'éviter, encore une fois, des longs mois de tractation après les élections et donc, encore une fois, l'instabilité politique, selon Giorgia Meloni.
Comment est accueillie la réforme en Italie, Annalisa ?
Eh bien, par l'opposition, plutôt mal. Il suffit de regarder le surnom qui a été donné à cette loi électorale. La coalition de Meloni l'appelle le Stabilicum, encore une fois, avec cette idée de stabilité. L'opposition, elle parle de Melonellum, donc une loi conçu par et pour Giorgia Meloni pour lui permettre de rester au pouvoir. Ça ne vous a pas échappé que cette nouvelle loi électorale, si elle passait, elle serait utilisée pour la première fois l'année prochaine, en 2027, puisque les Italiens vont voter au printemps 2027. Pour la gauche italienne, donc, c'est une tentative très claire de la part de Giorgia Meloni d'essayer de truquer un peu le jeu pour se maintenir au pouvoir. En l'état, c'est vrai que sa coalition de droite a une toute légère avance sur la coalition de gauche, donc ça donnerait, avec la loi électorale qui existe actuellement, un Parlement très divisé, très fragmenté, un peu à l'image du Parlement français, sauf que l'Italie est une démocratie parlementaire, et donc ça donne une instabilité encore plus importante. On l'a vu avec les derniers gouvernements italiens qui se sont succédés de manière très très rapide.
Donc, très vite, Giorgia Meloni veut sécuriser l'avenir, mais elle est encore en position de force.
Oui, oui, c'est vrai. Elle a encore à peu près 30% des voix, loin devant le Parti démocrate de gauche, qui est le premier parti d'opposition. C'est une stabilité politique, vous l'avez dit, absolument époustouflante pour un gouvernement italien. Mais elle se bat quand même pour sa réélection face à des ennemis qui commencent à arriver sur sa droite. Le général Roberto Vannacci, par exemple, qui a fondé un petit parti qui monte plutôt rapidement dans les sondages et qui peut menacer Giorgia Meloni sur une partie de son réservoir de voix de la droite radicale, ce que Giorgia Meloni veut à tout prix éviter. En plus, pour l'instant, son gouvernement a un record, c'est le plus durable des 15 dernières années. Dans toute l'histoire de l'Italie républicaine, il y a un seul gouvernement qui a su faire mieux, qui a su durer plus longtemps, c'est celui de Silvio Berlusconi, de 2001 à 2005. Eh bien, lui aussi avait créé une loi électorale avec un prix de majorité, loi retoquée parce qu'elle était inconstitutionnelle. Eh bien, Giorgia Meloni espère faire mieux et dépasser, même en termes de longévité politique, Silvio Berlusconi.
Merci beaucoup, Annalisa Capellini.
Good Morning Business, le journal.
7h31, les titres, Léo.
La coalition des volontaires se décline en coalition anti-balistique pour l'Ukraine, qui va aussi acheter 16 Rafales. On voit ça dès le début de ce journal. Les États-Unis et l'Iran bataillent pour le contrôle du détroit d'Hormuz. Donald Trump annonce une adresse à la nation dans 48 heures. On sera à Washington et puis chez Volkswagen. Ce seront finalement 100 000 postes qui seront supprimés. La coalition des volontaires veut donc aller plus vite et plus fort pour mettre la pression sur la Russie. Ça va passer par plus d'aide militaire à l'Ukraine, avec notamment cette annonce forte hier à Paris, Margot Fodéré. C'est la création d'une coalition anti-balistique.
Oui, avec un projet phare au cœur de cette initiative, c'est le projet Freya. C'est un programme purement défensif qui vise à développer les capacités anti-balistiques des Ukrainiens face aux Russes. Alors très concrètement, 9 pays, dont la France et l'Allemagne, vont mettre en commun leur base industrielle de défense pour développer une alternative aux missiles Patriot américains ou bien aux missiles Aster franco-italiens. Le projet sera piloté par l'entreprise ukrainienne Firepoint, qui a donc pour objectif de développer ce missile dans les 12 mois à venir, avec le défi aussi de produire en grande quantité. Toujours sur ce volet anti-aérien, Kiev va également se doter d'une première série de batteries SMPT. Ce sont des systèmes de défense qui sont co-conçus par la France et l'Italie. La France d'ailleurs, qui va également fournir d'autres équipements à l'Ukraine, dont 16 Rafales qui doivent voler d'ici 2 à 3 ans.
Ça, c'est pour les moyens aériens, Margot, mais d'autres capacités vont aussi être renforcées.
Absolument. Sur les moyens au sol, d'abord, la force multinationale qui sera déployée en Ukraine après le conflit va démarrer ses exercices dans les prochains mois. Exercices qui vont avoir lieu dans des pays voisins, selon Emmanuel Macron. Et puis, les Européens ont également promis de mieux lutter contre la flotte fantôme de pétroliers russes qui permettent à Moscou de financer son effort de guerre. Et toujours sur le volet financier, Londres aussi a annoncé rejoindre le prêt européen de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine.
Merci Margot Fodéré. Emmanuel Macron, lui, prononçait aussi hier son traditionnel discours aux armées d'avant 14 juillet. Et il en a profité pour appeler à ne pas céder au nationalisme industriel en matière de défense après l'échec du SCAF, l'avion de combat franco-allemand. Profondément regrettable, dit le président. Alors maintenant, quelle est la prochaine étape pour l'aviation de combat française, Jean-Baptiste Huette?
Première étape, déjà très concrète, Dassault et la start-up française Armatan AI viennent tout juste d'annoncer avoir fait voler un Rafale F4 avec un drone équipé pour la guerre électronique. Ce sont les débuts du combat collaboratif. La suite, elle est déjà en partie programmée. Au début des années 2030, le Rafale F5 doit être plus connecté, emporter le futur missile nucléaire français et travailler avec un drone de combat furtif. Ce couple permettrait de prolonger la crédibilité de l'avion de combat français. Safran a d'ailleurs débuté les études sur un moteur M88 plus puissant, le T-Rex. Mais au-delà, aucun choix n'est encore arrêté. projet. Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation, évoque plusieurs pistes. Pousser beaucoup plus loin la Rafale avec un éventuel super Rafale, lancer un avion entièrement nouveau ou bien rechercher d'autres partenaires, y compris en Europe. Le premier scénario serait probablement moins risqué et moins coûteux. Le second offrirait davantage de marge pour la furtivité, la puissance, mais réclamerait des dizaines de milliards d'euros et au moins 15 ans de développement. Éric Trappier affirme que la France possède tout le savoir-faire nécessaire, mais il reconnaît toutefois qu'elle n'a pas les moyens de tout payer seule.
Les attaques se poursuivent au Moyen-Orient sur fond de bataille pour le contrôle du détroit d'Ormuz.
Oui, les Américains disent avoir frappé des cibles militaires cette nuit, notamment le long des côtes iraniennes. Téhéran, de son côté, a visé ses voisins du Golfe et des navires dans le détroit d'Ormuz, où Donald Trump annonce le rétablissement de son blocus et même l'arrivée imminente d'une taxe américaine sur les navires qui transitent. De quoi faire s'envoler les cours du pétrole. $84 ce matin, le baril de Brent, 79 pour le WTI. Et alors on surveille ça de très près à Washington où vous êtes, Laurent Saïm.
Il y a 15 jours, le prix de l'essence ici, dans la rue principale de Washington, n'était pas à $5,59, mais $3,40. Et depuis hier, eh bien, ce prix de l'essence ainsi que le pétrole ne cesse d'augmenter. C'est important pour Donald Trump, qui hier, de manière extrêmement surprenante en fin d'après-midi, a annoncé sur son réseau social la reprise de bombardements très forts contre l'Iran dans les 24 à 48 heures. On ignore pour le moment l'étendue des dégâts. On sait encore une fois que le CENTCOM, le centre de commandement militaire, a confirmé que les bombardements frappaient les infrastructures iraniennes sans, comme toujours, donner le bilan de civils tués ou blessés. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, personne ne sait, si ce n'est que Donald Trump a décidé de s'adresser à la nation jeudi. Une nation qui est anxieuse de savoir si, bien évidemment, la guerre en Iran va se poursuivre, de quelle manière, est-ce que ça va durer longtemps. Donald Trump le sait, car encore une fois, avec ce prix de l'essence extrêmement élevé pour les Américains, cette guerre est plus impopulaire que jamais.
Laurent Saïm pour BFM Business. Le séisme s'annonce deux fois plus fort que prévu chez Volkswagen, Léo.
50 000 emplois de plus pourraient être supprimés, selon une note interne qui a fuité, ce qui porterait donc à 100 000 le nombre de postes menacés dans le monde chez le constructeur et 4 le nombre d'usines qui pourraient être fermées. C'est sans compter aussi les répercussions sur le reste de la chaîne. Alors, ces réunions de crise aujourd'hui en Italie, où les équipementiers sont particulièrement dépendants des commandes allemandes. Le ministre des entreprises italien réunit en tout cas la filière pour tenter de réagir à temps, Alexandra Paget.
Près de 20% des composants d'une voiture assemblée en Allemagne proviennent d'usines italiennes. De nombreux équipementiers en Lombardie, en Vénétie, dans le Piémont fournissent pièces et composants à Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz. Donc quand Volkswagen notamment, en but à une concurrence des constructeurs chinois de plus en plus féroce, baisse ses cadences, les volumes de commandes des fonderies fabricants d'échappements de transmission du nord de l'Italie chutent aussi. Le géant Marelli, principal équipementier italien, a dû engager une procédure de restructuration. Brembo, fournisseur de Volkswagen et Porsche, réputé pour ses systèmes de freinage, tire son épingle du jeu grâce à sa présence dans le haut de gamme. Mais la plupart des PME qui n'ont souvent qu'un seul client sont les plus vulnérables. Rome veut donc accompagner la modernisation de ses petits équipementiers avec un plan d'aide pour leur permettre de se diversifier. Le représentant des industries du secteur plaide, lui, pour une riposte de l'Union européenne aux pratiques très agressives de Pékin et pour des droits de douane ciblés afin de rétablir une concurrence équitable.
7h38, les marchés. Le pétrole flambe ce matin, Nicolas.
Semble un peu moins optimiste qu'hier sur une désescalade rapide des tensions entre l'Iran et les États-Unis, alors qu'une nouvelle salve de tirs américains a eu lieu cette nuit. Pour la troisième nuit consécutive, les prix du pétrole ont bondi de 9%. Le baril de Brent a dépassé les $85. Il est à 84 à l'heure actuelle. Le WTI s'est hissé, lui, juste en dessous des $80. Il est toujours aux alentours des 79 à l'heure actuelle. Des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis un mois et qui montrent que même si l'on est encore loin des $110 sur le baril de Brent, la vigilance sur les difficultés d'acheminement dans le détroit d'Ormuz grandit progressivement sur les marchés. On voit que le 10 ans américain s'est tendu légèrement. On est à 4,62%. Pareil pour le 30 ans américain. On est à 4,67%. On verra si cela a une incidence sur l'OAT 10 ans à l'ouverture du marché obligataire. Pour l'instant, l'OAT est à 3,88%.
On attend aujourd'hui de nombreuses publications de banques américaines et on devrait y voir l'influence de l'IPO de SpaceX.
Oui, la saison des résultats se lance officiellement aujourd'hui avec la publication de JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo et Citigroup. Des résultats pour lesquels les attentes sont fortes puisque le marché s'attend à une progression de 27% sur un an des commissions touchées par les banques, soit un total d'un peu plus de 11 milliards de dollars, alors que le deuxième trimestre 2026 est le meilleur depuis 6 ans sur les marchés actions, et ce malgré la volatilité ou les incertitudes créées par la guerre en Iran. Et une partie de la croissance de ces gains pourrait directement venir de l'IPO de SpaceX, qui a permis de générer pas moins de 500 millions de dollars de commissions distribuées entre les 23 banques engagées dans cet IPO. Un record absolu pour la plus grande IPO de tous les temps. Goldman Sachs et Morgan Stanley ont chacune perçu 100 millions de dollars. Mais dans les résultats de ces banques, on devrait également voir l'impact des méga-fusions, à savoir des fusions en bourse supérieures à 10 milliards de dollars. On en compte au moins 6 sur le trimestre.
Merci beaucoup Nicolas Pagnaise. L'édito de Raphaël Legendre.
Good morning business. L'édito de Legendre.
Dans son discours aux armées, Raphaël, Emmanuel Macron a salué le réveil stratégique des Européens, mais derrière les paroles, les actes ne suivent pas toujours. C'est ce que vous nous dites ce matin.
Non, effectivement. Vous savez, j'aime bien citer Mazarin, Sandra, régulièrement. Mazarin qui disait que l'art de la politique, c'est l'art de la simulation et de la dissimulation du pouvoir. Eh bien, 342 ans après l'écriture du bréviaire des politiciens, on va assister là un cas pratique quasiment pur et parfait de la maxime de Mazarin avec le défilé du 14 juillet. 6800 soldats sur les Champs-Élysées, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement dans l'estrade. La coalition des volontaires est réunie à Paris, effectivement. Et Emmanuel Macron qui affirme que l'Europe est en train de devenir une puissance prête à défendre la paix et la liberté, je cite, au prix du sang s'il le faut. Les mots sont forts, ils claquent comme un coup de semonce. La mise en scène est léchée, sera très impressionnante pour le défilé du 14 juillet, mais ça reste de la mise en scène. On est dans le show à l'américaine, on aura de très belles images, sauf que derrière, il faudrait du concret sur le réveil de la puissance européenne, et là, on n'y est pas encore tout à fait.
Ce réveil européen, il est quand même un peu réel.
Alors, il est un peu réel, oui, sur quelques points, plusieurs pays se réarment effectivement, la Pologne, l'Allemagne, les pays baltes, les Scandinaves, les budgets augmentent, on l'a dit et répété, la France a doublé son budget aux armées en 10 ans, les Européens coordonnent davantage leur soutien à l'Ukraine aujourd'hui. On a eu la réunion hier. Ils parlent de défense aérienne, de stocks, de drones, de munitions, de garanties de sécurité. Il y a un véritable basculement historique de l'Europe qui comprend qu'elle est de moins en moins protégée par les États-Unis et le parapluie de l'OTAN. Sauf que, entre le réveil stratégique et la puissance militaire avérée, ben, il y a encore un gouffre.
Qu'est-ce qui manque encore, Raphaël ?
Ben, presque tout ce qui transforme les milliards en force opérationnelle. On a voté les crédits, mais on produit toujours pas, ni assez vite, ni assez fort, ni en quantité suffisante. On manque de missiles, d'intercepteurs, de munitions, de capacités de frappe dans la profondeur. Nos armées restent dépendantes encore et toujours des Américains pour le renseignement, le commandement, la logistique et une partie de la défense aérienne aussi. Et puis surtout, l'Europe continue de se réarmer en ordre dispersé. Chacun protège ses usines, ses standards, ses champions. Le SCAF devait symboliser la souveraineté franco-allemande. C'est un échec patent, un échec qui symbolise aujourd'hui nos divisions. Le vrai test est donc encore devant nous. En Europe, acheter européen, la préférence européenne est évidemment majeure aujourd'hui. Produire en série, passer des commandes longues, financer des usines avant même que la guerre les rende parfaitement indispensables et accepter qu'une défense commune suppose aussi une doctrine, une chaîne de décision et une volonté politique commune. Jean Monnet disait que l'Europe se ferait dans les crises hein, et qu'elle serait la somme des solutions apportées à ces crises. Eh bien, pour l'instant, l'Europe a trouvé la crise, mais il lui reste encore à fabriquer la solution.
Merci Raphaël Legendre. On va en parler justement dans un instant avec mon invité du grand entretien, c'est Alexandre Delahousse, directeur adjoint de la Direction Générale de l'Armement. Restez avec nous, à tout de suite.
Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien ce matin, je reçois Alexandre Laousse, directeur adjoint de la Direction Générale de l'Armement. Merci d'être avec nous dans la matinale de l'économie. La DGA qui fête ses 65 ans, elle a été créée en 1961 sous le général de Gaulle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement son ampleur et sa mission ?
Bonjour Sandra Gandouin, ravi d'être là ce matin. Alors la DGA, c'est 10 500 femmes et hommes qui travaillent, je dirais, pour leur première mission, pour équiper les forces, donc nos armées. Tous les matériels que vous allez voir lors du défilé aujourd'hui, les matériels volants, hélicoptères, avions, matériel roulant, ils ont été conçus, développés, testés, affinés, validés et livrés aux armées par la DGA. La DGA, sur les 10 000, les plus de 10 000 personnes, c'est 7 000 personnes qui sont des experts techniques. Sébastien Lecornu, notre Premier ministre, disait souvent « La DGA, c'est le dernier bastion des ingénieurs au sein de l'État ». Et donc, la DGA, elle défile cette année pour la quatrième fois. Petite spécificité cette année, elle défilera derrière un drapeau qu'elle a reçu des mains de notre ministre le 30 juin. Ce drapeau, c'est à la fois la reconnaissance des 65 ans, vous l'avez dit, de service de la DGA au service de la France et de notre souveraineté. Et c'est aussi un symbole, la DGA de combat qui est regroupée derrière son étendard et qui prend sa responsabilité dans le réarmement de la France et de l'Europe.
Justement, la ministre des Armées dit que cette DGA se transforme en DGA de combat, ça veut dire quoi? Ça implique quoi sur le terrain pour les années à venir? Est-ce qu'il va y avoir un changement de stratégie, un renforcement, une rapidité?
Alors, la DGA de combat, je dirais, c'est trois points. C'est d'abord aller plus vite, forcément, lié au contexte actuel. Donc, pour aller plus vite, il s'agit d'intégrer l'innovation plus vite que l'adversaire. C'est ce que nous apprend le conflit en Ukraine. Pour ça, on fait du développement agile. Donc, on vise pas forcément un produit parfait, mais un premier produit qu'on va développer très vite et qu'on va faire évoluer au fur et à mesure. On va faire du travail intégré, on va rapprocher nos experts de terrain avec les spécialistes opérationnels des forces armées. On va travailler en équipe intégrée pour accélérer la prise de décision. Pour ça, on crée des centres en région où on va se mettre au plus près des utilisateurs et des armées. Et puis, une démarche particulière donc pour les technologies à cycle court. La DGA de combat, c'est aussi produire du volume, de la masse, donc produire plus. Pour ça, on donne de la visibilité. C'est la loi de programmation militaire qui a été réabondée de 36 milliards. C'est aussi recourir à des industriels de la grande série, l'automobile, l'électronique grand public, et qui ont l'habitude de produire beaucoup. Et puis, c'est encore plus d'exigence sur les prix, parce que l'État nous confie beaucoup d'argent. Il faut que ça donne beaucoup, beaucoup plus d'équipement. Et donc, vous voyez, la DGA de combat, c'est l'équilibre entre la technologie pour continuer à dominer l'adversaire et la masse pour pouvoir le saturer.
Ça fait plusieurs années qu'on dit que la défense européenne ne va pas assez vite. Alors la France est en tête de cette stratégie. Emmanuel Macron termine là son quinquennat. C'est son dernier défilé du 14 juillet. De quelle façon concrètement l'armée a changé ces 10 dernières années? On voit là dernièrement avec les conflits à l'extérieur qu'on développe des stratégies défensives. On en a parlé hier, mais Emmanuel Macron dit qu'il est prêt à défendre la paix au prix du sang s'il le faut. On voit bien qu'on est dans un basculement là.
Alors, on est en plein réarmement. Il y a eu un plan lancé en 2022 qui s'appelait « Se préparer à l'économie de guerre ». Les résultats nationaux, ils payent. On a quand même des cadences qui ont été augmentées par x2 à peu près partout, x3. On a obtenu des x4 et des x6, donc c'est quand même des choses assez importantes. Se préparer, c'est aussi comprendre qu'il faut investir sur l'industrie. On investit à la fois sur les stocks. Les munitions, on va passer 6 milliards de commandes sur les munitions cette année. On accélère, on a regroupé toutes les commandes qui étaient égrenées au fur et à mesure des années de la loi de programmation militaire. On les a toutes regroupées, on va tout passer cette année. Mais c'est aussi être capable de faire du flux pour régénérer les munitions. Et donc, il y a des investissements prévus sur l'industrie. Évidemment, les évolutions, c'est les technologies à cycle court, des drones partout pour toutes nos armées. La protection contre les drones de l'ennemi, lutte anti-drone également. Et puis, la guerre électronique, les enseignements en Ukraine, mais aussi au Moyen-Orient, c'est le brouillage du théâtre. Donc, il faut être capable d'opérer en environnement brouillé.
Est-ce que les industriels dont vous parliez, ils vont défiler d'ailleurs des industriels là aujourd'hui, et c'est pas souvent que ça arrive, ça veut dire que ça marque quand même ce tournant dont je parlais. On voit que les Européens, John Cockerill, Renault par exemple, se mettent en action pour développer des engins de guerre, des drones par exemple. C'est vers cela que les industriels vont, une activité civile habituelle, et aussi à un moment basculer une partie de leur activité, de leur production vers un effort de guerre.
Alors, Une des grandes forces de la Direction Générale de l'Armement, c'est qu'on connaît très bien le tissu industriel. On les suit depuis longtemps. Et en fait, notre base industrielle de défense, vous le savez, il y a les 9 grands maîtres d'œuvre que tout le monde connaît, Dassault, Safran, Naval Group, enfin, je vais pas tous les citer. Mais derrière, il y a 4500 entreprises, des petites, moyennes entreprises, entreprises très intermédiaires. En fait, elles sont déjà ce qu'on appelle duales. Elles font beaucoup de civils. Donc, notre base industrielle actuelle, je dirais, en général, elles font 80% de leur chiffre d'affaires dans le civil, seulement 20% dans le militaire. Donc, on a déjà l'habitude de travailler avec des entreprises qui ont, je dirais, un pied dans chaque univers. Là, ce qu'on va chercher aujourd'hui dans l'industrie civile, il y a deux choses. Il y a les industriels eux-mêmes qui souhaitent venir dans ce secteur pour nous soutenir. Et puis, on va chercher certaines compétences. Je citais l'industrie de grande série, où certains industriels ont l'habitude de faire des très, très grandes séries, peuvent apporter leur expertise à nos entreprises. Je vous cite juste un exemple. Un bureau d'études de l'automobile est venu prêter assistance à notre demande à un droniste. Et en revoyant les plans de son drone, il lui a permis de simplifier la conception. Quelque chose qu'il faisait en 6 pièces, il a dit « vous pouvez le faire en une seule ». On a gagné de la cadence grâce à cette expertise.
De la simplification, des commandes, on sent qu'on va dans le bon sens. Pourtant, l'Europe se réarme en ordre dispersé. On a évidemment, et on en parle beaucoup sur ce plateau, le dossier du SCAF. C'est problématique, chacun protège ses usines, ses champions. Est-ce que vous sentez que ça va faire ça un petit peu sur tous les dossiers ou que finalement la coopération européenne, elle va quand même se mettre en place mais au vu du contexte international qui devient pressant?
Alors, le SCAF, l'arrêt du SCAF, c'est dommage pour l'Europe. Le président de la République l'a dit encore hier dans son discours à Brienne. Pour la France, nous, on va dérouler parce qu'on sait faire des avions de chasse et on va continuer à chercher des partenaires, d'autres partenaires, parce qu'on reste dans l'ADN de la construction européenne. Alors, vous avez raison, coopérer, c'est important pour, je dirais, 3 raisons. Déjà, la France, dans le cas d'un conflit, si ça devait arriver, elle sera jamais seule. On sera toujours en coalition. Donc, il faut que nos matériels puissent communiquer avec ceux des autres. Il faut qu'on puisse être interopérable, comme on dit. La deuxième raison, c'est que les budgets de l'Europe dans la défense sont en train d'augmenter et il va y avoir une grosse marche à partir de 2028. On va faire des budgets qui vont peut-être être x4 ou x5 par rapport à aujourd'hui. Donc, il faut se mettre à plusieurs pour les dépenser au mieux dans le bien collectif. Et puis, troisièmement, il faut qu'on bénéficie des capacités industrielles européennes. Le plan national dont je parlais tout à l'heure, il a porté ses fruits, mais il n'est pas encore suffisant. Le président l'a dit également hier. Et donc, il faut qu'on puisse bénéficier des entreprises qui ont encore des capacités de production ailleurs. Donc, la coopération, on n'a pas le choix, il faut y aller. Peut-être qu'on va coopérer autrement. Évidemment, il y a les partenariats, comme on faisait avant, des coopérations sur des projets. Il y a des partenariats stratégiques. La Belgique a fait le choix de calquer son armée sur l'armée française. Ça veut dire les mêmes matériels. Les officiers sont formés chez nous, donc même formation. Ça veut dire des achats sur étagère. On a fait le choix, nous, la France, d'acheter un avion de surveillance aérienne à la Suède, le Global Eye. Pourquoi ? Pas parce qu'on ne sait pas le faire, mais parce qu'il est prêt. Il existe, il est là et on en a besoin maintenant. D'ailleurs, dans l'autre sens, la Suède a fait le choix des frégates françaises pour la même raison, parce qu'elles existent. Et puis, je dirais, dans la coopération, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle les chaînes de sous-traitance croisées. Prendre des sous-traitants, je dirais, d'autres pays européens pour travailler en plus de nos sous-traitants et de nos industries françaises au profit de nos produits. À l'inverse, on accepte que des PME françaises vont aller travailler au profit de produits européens de nos partenaires. C'est un peu coopérer autrement pour être à l'heure du rendez-vous.
Oui, on va assez vite, justement, parce que là, cette cérémonie aujourd'hui est placée sous le signe du réveil stratégique de l'Europe sans les États-Unis. On ne peut plus compter réellement sur leur protection. Est-ce qu'on est prêt, au final, si un conflit éclate à nos portes dans les mois, dans les années qui viennent?
Alors, je dirais, on n'a jamais été aussi prêt, puisque, un, on accélère. Deux, on a prévu des tas de dispositions. On a des stocks de précautions sur des pièces qui permettent aussi d'accélérer plus vite. On a des commandes, comme je disais tout à l'heure, massives. On a une industrie qui est prête. On va chercher d'autres fournisseurs. Évidemment, on n'est jamais suffisamment prêt. Donc, on continue d'accélérer. Je pense que c'est un peu toute l'idée du plan DGA de combat. On fait ce qu'il faut pour être agile, rapide et être prêt. Puisque sur les produits agiles, comme j'aime bien le dire, l'idée, ce n'est pas d'acheter non plus des stocks aujourd'hui qu'on va mettre quelque part et puis qui seront obsolescents dans 6 mois. C'est un stock suffisant et des capacités industrielles qui peuvent accélérer quand on en a besoin.
Merci Alexandre Laouze d'être venu sur notre plateau, directeur adjoint de la Direction Générale de l'Armement. Merci d'être venu dans
Merci
la matinale de l'économie. Dans un instant, on va revenir sur ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. La bataille pour le contrôle continue. Les États-Unis et l'Iran se sont attaqués pour la troisième nuit consécutive. Ça a des conséquences évidemment sur le pétrole. Et puis, on reviendra aussi sur cette cérémonie du 14 juillet, très spéciale cette année. À tout de suite.
BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business. Sandra Gandrin.
Presque 8h, bienvenue dans la matinale de l'économie. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. La bataille pour le contrôle du détroit d'Ormuz continue. L'Iran et les États-Unis se sont attaqués pour la troisième nuit consécutive dans ce passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures. Résultat, justement, le pétrole flambe. On va y revenir dans un instant sur cette situation avec Annalisa Capellini. Et dans ce contexte, ce sont 25 chefs d'État et de gouvernement qui seront présents sur les Champs-Élysées ce matin pour le défilé du 14 juillet, cérémonie placée sous le signe du réveil stratégique de la France sans les États-Unis. 6800 soldats, la coalition des volontaires autour de l'Ukraine et des industriels qui vont fouler le pavé ce matin. On sera en direct avec Hugo Babet dans un instant. Les autres titres, Léo Dumas.
Helsing devient la start-up numéro 1 en Europe dans le secteur de la défense. Carton plein pour les exportations chinoises au mois de juin. Et puis, Didier Deschamps est-il le meilleur DRH de France?
On verra ça effectivement. Et dans la prochaine heure, il suffisait de voir le ciel parisien cette nuit pour constater que les drones sont en train de remplacer les feux d'artifice. On va en parler dans la French Tech à 8h15 avec un spécialiste de la question, l'entreprise Splendid Drones qui sera notre invité. Et puis c'est la troisième plus grande compagnie maritime du monde avec 24 navires. MSC Croisières va accueillir un nouveau bateau à la fin de l'année. Les croisières n'en finissent plus de séduire et se modernisent. On va en parler à 8h20 avec Patrick Pourbet, le directeur général d'MSC Croisières. La matinale de l'économie, ça continue. Soyez les bienvenus.
Good morning business, le journal.
Le pétrole s'envole, Léo.
$84 ce matin pour le baril de Brent qui a quasiment pris 10% sur la journée d'hier, c'est-à-dire la plus forte hausse en l'espace de 24 heures depuis la sortie du Covid. Sur fond évidemment de tension maximale au Moyen-Orient avec les États-Unis et l'Iran qui se sont attaqués pour la troisième nuit consécutive. Et surtout, Annalisa Capellini, c'est le retour du blocus américain dans le détroit d'Ormuz.
Oui, et Donald Trump lui parle d'un blocus iranien sur sa plateforme Truth. Pourquoi iranien? Eh bien parce qu'il empêche uniquement les navires et les clients de l'Iran de rentrer et de sortir du détroit. Pourtant, depuis le 18 juin dernier et la signature de l'accord cadre, la navigation avait progressivement repris dans le détroit de manière plutôt libre. Eh bien, c'est terminé, selon le président américain, qui a annoncé sur Fox News que les États-Unis vont prendre le contrôle du détroit et en devenir les gardiens. Je cite ces mots. Ils vont aussi prélever au passage une taxe équivalente à 20% des cargaisons, selon Donald Trump. C'est un souci d'équité, c'est une manière d'être remboursé pour le danger auquel les États-Unis se sont exposés pour sécuriser le détroit. Le président américain a tout à fait raison. C'est la réponse ironique du ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi sur X. Quiconque assure le passage du détroit d'Ormuz devrait être rémunéré pour ce service, lui répond-il. Mais c'est l'Iran qui a toujours été le gardien du détroit et qui le restera pour toujours. Voici pour la réponse de Téhéran. Les Iraniens considèrent toujours que le détroit est fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils continuent donc leurs attaques sur les navires qui y transitent. Les Émirats Arabes Unis ont rapporté dans la nuit des attaques de missiles iraniens contre deux de leurs navires dans le détroit. Trois d'Ormuz, attaques qui ont fait un mort parmi les membres de l'équipage.
Merci Annalisa. Et une réaction ce matin dans la communauté internationale à ce projet de taxe de Donald Trump. C'est le président Lula du Brésil qui visiblement est consterné.
À l'époque, ça s'appelait de la piraterie. Un grand pays comme les États-Unis, qui à mon sens combattait pendant longtemps la piraterie, ne peut pas aujourd'hui devenir lui-même un pirate. Il ne devrait pas faire payer.
C'est un jour de fête nationale en France, défilé du 14 juillet XXL pour la dernière d'Emmanuel Macron, Léo.
Avec un budget militaire multiplié par deux pendant ces 10 dernières années, le chef de l'État veut marquer les esprits. Les troupes se préparent en ce moment sur les Champs-Élysées. On vous rejoint en direct, Hugo Babet, ce matin pour BFM Business. Alors c'est vraiment une démonstration de force qui est attendue tant française qu'européenne.
Oui, le président de la République a vu les choses en grand pour illustrer ce réveil stratégique avec 6800 militaires à pied qu'ils vont défiler lors de ce 14 juillet 2026. Un record avec 15% de plus que l'an dernier, mais aussi 30% de chars supplémentaires, 30% d'aéronefs supplémentaires également, une armée modernisée. On verra ce matin les nouveaux chars, les blindés Jaguar et Griffon et une soixantaine de drones. La priorité pour l'armée française qui souhaite en produire davantage. Le président de la République l'a rappelé hier. Et ce réveil stratégique, il est européen aussi. L'ouverture du défilé sera faite par 500 militaires européens, une trentaine de pays représentés, notamment de la coalition des volontaires qui était présent hier. Des chefs d'État seront présents aujourd'hui, une trentaine. Et enfin, l'Ukraine sera mise à l'honneur. 25 militaires défileront sur les Champs-Élysées et deux Mirage 2000 français seront pilotés par un binôme aviateur français et aviateur ukrainien.
Merci Hugo Babet en direct des Champs-Élysées pour BFM Business. Quand dans le secteur il y a Helsing qui passe encore un nouveau cap, la start-up allemande vient de lever 1,8 milliard de dollars avec notamment Goldman Sachs et JP Morgan. Elle est maintenant valorisée 18 milliards. C'est donc la start-up numéro 1 en Europe dans le secteur, Jean-Baptiste Huette.
Créée en 2021, Helsing vendait au départ surtout des logiciels d'intelligence artificielle pour les armées. Mais depuis la guerre en Ukraine, l'entreprise s'est transformée en véritable industriel de défense. Le groupe fabrique désormais des drones d'attaque, développe des navires autonomes et veut concurrencer directement les grands groupes historiques de l'armement. En Allemagne, Helsing a déjà décroché cette année une commande de 270 millions d'euros pour des drones, ainsi qu'un contrat de 223 millions pour un logiciel expérimental de combat. Helsing possède aussi des bureaux en France. Le groupe a d'ailleurs récemment passé un partenariat avec Eurenco pour la fourniture de têtes explosives, bureau également au Royaume-Uni et dans les Pays-Baltes. Helsing reste majoritairement détenu par des investisseurs européens, malgré l'arrivée de grands fonds américains. Alors que Rheinmetall a récemment été sanctionné en bourse et que KNDS a reporté son introduction, Helsing montre que les investisseurs restent prêts à miser massivement sur la défense européenne, mais deviennent beaucoup plus sélectifs sur les dossiers et les valorisations.
8h05 et le chiffre de la matinée arrive de Pékin. C'est le commerce extérieur chinois qui progresse bien plus que prévu au mois de juin. On est, selon les douanes, à plus 27% sur un an, Nicolas Pagnaise.
Oui, et c'est au-dessus du consensus qui n'en attendait que 18%. Les importations ont, elles aussi, défié les pronostics puisqu'elles bondissent de 36% sur un an. Un niveau inédit depuis 5 ans qui montre que les usines chinoises ont continué à tourner malgré la croissance ralentie dans un certain nombre d'économies occidentales. Des ventes qui ont notamment été portées par une forte demande de produits liés à l'intelligence artificielle comme des circuits intégrés ou des produits de haute technologie. La Chine a notamment vu ses exportations de semi-conducteurs progresser de 122% sur un an. Mais attention, cette hausse est en trompe-l'œil. Elle reflète la flambée des prix liée à un choc d'offres, alors que le volume d'exportation des puces est en léger recul. Au-delà des semi-conducteurs, l'automobile a également porté les exportations de la Chine avec un bond de 72% des véhicules exportés. Les exportations avec les États-Unis ont progressé de 14%, alors que les importations en provenance des États-Unis progressent, elles, de 25%. Certains analystes estiment d'ailleurs que la Chine pourrait avoir bénéficié d'un effet d'opportunité avec des anticipations de commandes de la part de clients occidentaux avant de nouveaux droits de douane potentiels.
Merci Nicolas Pagnaise. On se retrouve dans un instant pour le point marché. Les croisières seront-elles le carton de l'été, Léo ?
Les signaux sont au vert, en tout cas. De plus en plus de voyageurs s'essaient à cette formule et la France a réintégré le top 10 mondial avec près de 600 000 passagers français l'an dernier en dépit des accusations de surtourisme, Alexandra Pagé.
Le secteur est loin de faire l'unanimité dans le collimateur de certaines villes comme Barcelone ou Venise, qui veulent limiter l'accès des bateaux dans leurs ports. Mais l'activité, elle, se porte très bien. Le nombre de croisiéristes dans le monde en 2025 a augmenté de 7,5% en un an à plus de 37 millions. Résultat, les océans pourraient compter sur leur flot près d'une soixantaine de nouveaux navires d'ici 10 ans. MSC Croisières vient d'ailleurs de passer un contrat de 3,5 milliards d'euros auprès des chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire pour la réalisation de deux nouveaux bateaux à horizon 2029 et 2030, deux monstres des mers parmi les plus importants pour le moment. Mais si les armateurs et compagnies renouvellent progressivement leur flotte, ce n'est plus forcément pour des paquebots aussi démesurés, mais des navires aux capacités plus restreintes, prévus pour moins de 3000 passagers, moins polluants, fonctionnant au GNL. De quoi permettre aux 40 millions de passagers prévus d'ici 2 ans de sillonner les mers, des Caraïbes notamment, destination qui représente 44% des parts du marché de la croisière.
Et Patrick Pourbet, le directeur général d'MSC Croisières, sera sur ce plateau dans 10 minutes. France-Espagne, 21h, Léo Dumas est au taquet, il faut le savoir.
Oui, la demi-finale du Mondial, avec des Bleus qui, jusqu'ici, ont brillé par leur cohésion, sous l'impulsion, évidemment, de Didier Deschamps, peut-être le meilleur DRH de France. Il y a, en tout cas, dans son management, quelques bonnes pratiques qui peuvent inspirer Erwan Maurice.
Didier Deschamps est souvent présenté comme un manager hors pair. Selon Florent Gautreau, journaliste afterfoot et intervenant en entreprise, il faut dire qu'il a été à bonne école, celle d'Aimé Jacquet, entraîneur de l'équipe de France 98.
Aimé Jacquet avait construit un groupe, pas forcément avec les meilleurs joueurs de l'époque, puisqu'il avait exclu, entre guillemets, Cantona, Ginola, mais il avait l'idée d'un groupe qui pouvait réussir. Et l'idée de 98, c'est un groupe auquel personne ne croyait, pas grand monde en France, et qui a fini par gagner la Coupe du Monde, et la première en l'occurrence. Et Deschamps, lui, a gardé ce fil conducteur de la volonté, sur un tournoi, d'avoir avec lui un groupe, pas forcément toujours avec les 26 meilleurs joueurs du moment, mais avec les 26 joueurs qui vont s'entendre.
Des choix payants, car ils sont faits dans une vision de long terme.
C'est un pragmatique. Et s'il le fait, c'est avant tout parce qu'il pense que ça peut lui rapporter en termes d'efficacité, de résultats finalement. C'est comme une entreprise, on le fait parfois parce qu'on s'entend bien avec les gens, puis on le fait aussi parfois en se disant bah, ça va me servir parce que cet élément-là est un excellent élément.
L'entraîneur des Bleus qui s'est aussi adapté à la génération.
Il a pris un hôtel en ville, il leur a permis de sortir un peu le soir sur quelques heures, et je pense que Deschamps évolue avec son temps, c'est aussi ça son intelligence, et il pense qu'il va recueillir les bénéfices.
Didier Deschamps qui serait donc en entreprise dans la team télétravail et équilibre vie pro-vie perso.
8h09, les marchés. Quelle tendance à 50 minutes de l'ouverture, Nicolas ?
Pour l'instant, on attend des marchés européens orientés dans le rouge, que ce soit pour le CAC 40 ou le DAX. Léger recul sur les donc marchés européens. À noter que à l'ouverture des marchés obligataires, on voit l'OAT 10 ans qui se tend dans le sillage des tensions obligataires qu'on peut voir aux États-Unis. On voit que l'OAT 10 ans est à 3,90 à l'heure où on se parle. On voit que le marché obligataire français réagit lui aussi à la progression des cours du pétrole. On rappelle que le baril de Brent est aux alentours des $84. Il a dépassé les $85 dans la nuit. Le WTI est lui juste en dessous des $80 à $79. C'est quand même une progression de 9% par rapport au cours d'hier, en lien avec une nouvelle salve de tirs américains qui a eu lieu cette nuit pour la troisième nuit consécutive, et le marché qui commence à se demander si effectivement ce scénario désescalade ou de riposte courte entre États-Unis et Iran est vraiment le scénario central. Alors on est bien sûr loin des $110 du baril de Brent qu'on avait connu il y a encore quelques semaines, mais ça montre une vigilance quand même supplémentaire de la part du marché. Pour autant, les marchés asiatiques qui ont ouvert dans le rouge, que ce soit le Nikkei, le Shanghai Composite ou le Hang Seng, sont à présent tous orientés dans le vert. Ça pose la question de savoir quels sont les drivers des marchés asiatiques à l'heure actuelle. Le Nikkei plus 0,58%, le Shanghai Composite plus 0,63%, le Hang Seng plus 0,24%. À noter que aujourd'hui, Kevin Warsh prendra la parole devant le Congrès, notamment en lien avec le dernier rapport de stratégie monétaire de la Fed. On aura plus d'éléments peut-être sur sa vision donc d'intervention de la Fed cet après-midi, et on découvrira également le CPI, donc l'indice d'inflation aux États-Unis cet après-midi également.
Merci Nicolas, c'est Culturia tout de suite.
Good morning business. Culturia.
Elia qui s'invite à la plage Anthony Morel, elle pourrait sauver des vies en évitant des noyades.
Oui, gros enjeu évidemment, 230 000 noyades par an dans le monde, c'est la troisième cause de décès accidentel dans le monde, et effectivement on a une énorme pénurie chronique de maîtres nageurs sauveteurs. Et là encore évidemment, l'intelligence artificielle peut venir à la rescousse. Il y a un certain nombre de start-up qui se sont lancées dans ce secteur, avec notamment des outils qui permettent, j'allais dire, d'augmenter les capacités des maîtres nageurs qui sont en sous-nombre. Je pense à un outil qui s'appelle Sidebeat, qui est déjà installé sur certaines plages. C'est un outil israélien. En gros, c'est une caméra couplée à des algorithmes qu'on a entraîné à détecter des situations dangereuses. Donc à détecter par exemple un baigneur en difficulté. Ah mais non, en fait il n'est pas en difficulté, il est en train de jouer. Celui-ci par contre, il est en train de se noyer. Mmh. Ah et puis là, il y a un enfant qui est en train de s'approcher d'une zone dangereuse où il y a du courant. Tout ça est détecté par l'intelligence artificielle, et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le maître nageur, qui encore une fois ne peut pas tout voir en même temps, va recevoir avoir une alerte sur sa tablette, son téléphone, et il va pouvoir intervenir le plus rapidement possible. L'enjeu étant de gagner les quelques secondes ou quelques dizaines de secondes qui sont absolument cruciales dans ces circonstances, comme vous pouvez l'imaginer. Alors ça fonctionne au bord de l'océan, enfin sur n'importe quel plan d'eau, mais il y a aussi des innovations similaires qui fonctionnent pour les piscines. Alors là aussi, il y a des startups qui ont bien compris qu'il y avait un créneau pour notamment la surveillance des enfants. Donc là, c'est des petites caméras intelligentes qu'on va mettre à la surface, mais aussi sous l'eau, et qui vont être capables de détecter qu'un enfant vient de sauter dans la piscine alors qu'il n'aurait pas dû, sans la surveillance de ses parents. Et à ce moment-là, les secours vont être prévenus instantanément. L'enjeu, encore une fois, étant de sauver des vies.
Là, vous l'avez dit, c'est pour détecter. On voit bien le principe. Est-ce que l'IA peut aussi sauver des vies?
Oui, alors c'est là qu'intervient une invention géniale. On va parler de drones avec notre invité juste après. Oui. On peut faire plein de choses avec des drones. Et on peut aussi larguer des bouées de sauvetage. Alors on a des drones largueur de bouée, et on a carrément des drones bouées, des bouées volantes, on pourrait appeler ça. Alors ça, c'est une innovation chinoise. C'est assez étonnant. Et en même temps, on se dit pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt. C'est un quadricoptère, mais couplé à une bouée. Donc vous avez les petites hélices. Et puis, en même temps, c'est un objet flottant. Donc en gros, on va pouvoir le piloter à distance, l'acheminer extrêmement rapidement parce qu'on est à vol d'oiseau et qu'on peut voler à 50 km/h, vers une personne qui est en difficulté. Et à ce moment-là, le drone va se poser sur l'eau tout simplement, et la personne peut s'en saisir et attendre, j'allais dire tranquillement, peut-être pas tranquillement, mais en paniquant un petit peu moins, les secours humains. L'idée n'étant pas de remplacer les sauveteurs, mais bien de gagner, encore une fois, quelques précieuses secondes qui, dans ces circonstances, peuvent permettre de sauver une vie, tout simplement.
Rester à la surface, en effet. En Australie, on sert par ailleurs de caméras intelligentes pour repérer notamment les requins et prévenir les baigneurs.
Oui, si vous avez été traumatisé comme moi et comme beaucoup par les dents de la mer, c'est même quand je me baigne dans le Finistère, j'ai peur des requins blancs. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup dans la région. J'ai vérifié, globalement, les requins blancs, il n'y en a pas trop. Mais en Australie, il y en a. Et là encore, on va utiliser des drones qui sont couplés à de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des algorithmes qu'on a entraînés à repérer sous la surface de l'eau que, ça, c'est un dauphin, ça, c'est un banc de poissons, et là, attention, il y a vraiment un requin. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un mégaphone qui va prévenir les baigneurs qu'il faut sortir de l'eau. Je rappelle que les requins font en réalité très très peu de morts, c'est une vingtaine de morts par an, comparé aux moustiques par exemple, qui en font des dizaines de milliers. C'est pas du tout les mêmes échelles.
Oui.
Mais il y a une phobie un peu disproportionnée des requins.
C'est ça, c'est une idée, ça rassure des gens comme vous et moi, Anthony, c'est tout. La French Tech tout de suite.
Good morning business. French Tech.
On parle de drones, effectivement, c'est Germain Fidon qui est avec nous, président fondateur de Splendid Drone. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Splendid Drone, spécialisé dans les spectacles lumineux par drone, marché en pleine expansion. Votre spécificité à vous, c'est quoi? Il y a quand même une vingtaine d'entreprises en France qui commencent à faire ça. Alors comment on se distingue finalement?
Nous, on se distingue vraiment par la création et le travail sur l'émotionnel. Le but, c'est de faire des spectacles qui sont un peu comme des roller coasters, qui font vivre des émotions vraiment différentes tout au long du spectacle, qu'on soit dans la joie, dans la danse, dans le wow, et aussi des fois dans la poésie.
Et donc qu'est-ce qu'on peut, alors on voit quelques images pour ceux qui nous regardent à la télé, mais qu'est-ce qu'on peut afficher comme image, et qu'est-ce qu'on est capable de faire avec combien de drones, et comment on arrive à coordonner tout ça?
En fait, nous, déjà, nos spectacles commencent à 50 drones. Alors, à 50 drones, on va être surtout de l'abstrait, surtout. Mais après, plus on va avoir de drones, plus on peut faire des formes détaillées, des textes plus compliqués.
Là, on voit des vers qui s'entrechoquent, par exemple.
Oui, voilà,
des vers qui trinquent,
c'est notre
pour la bonne année, j'imagine.
Alors, ça, c'est la foire du trône. Mais juste avant, on avait une image des coupes. Ça, c'est notre show pour les mariages, par exemple, avec une alliance. Voilà, ça, c'est notre logo dans le ciel. Et des images aussi de la foire du trône à Paris, où on avait 300 drones et où c'était un dispositif assez inédit.
300, ça commence à être pas mal. Et en même temps, j'ai regardé, on est des petits joueurs. Je voyais qu'en Chine, ils ont fait des spectacles avec 20 000 drones.
Ouais.
On joue vraiment dans une catégorie complètement différente, en fait.
Oui, c'est totalement différent. Après, la réglementation est aussi totalement différente. Donc, on a la réglementation européenne qui fait que... on a certaines règles à suivre, et surtout sur les distances entre les personnes. C'est des shows qui sont ultra sécurisés. C'est des shows où, en fait, on a des distances de sécurité à tenir avec les personnes pour, si jamais on a un drone qui crash, Au moins, on est sûr et certain qu'il n'y aura aucun blessé.
Ça arrive, ça. Il y a des drones qui tombent parce qu'il y en a un qui n'a plus de batterie.
On a pu voir hier que sur le show de 1600 drones, il y en avait en moins. Voilà. Enfin, c'est toujours une possibilité.
Vous parlez de cette nuit, du spectacle du feu d'artifice, qui n'est plus réellement un feu d'artifice, voilà, parce que justement, avec les circonstances climatiques, les spectacles de drones sont appelés à remplacer les feux d'artifice. Vous avez de plus en plus de demandes.
Alors, nous, on ne dit pas qu'on remplace, parce que c'est un mix qui est totalement... c'est très complémentaire et en fait, ça apporte des spectacles, quand on fait les deux en même temps, ça apporte des spectacles vraiment uniques. C'est deux événements éphémères très différents. On en a un qui va être sur le wow pendant toute la durée, il y en a un qui est vraiment sur une histoire qu'on peut raconter, une personnalisation poussée.
Et donc, expliquez-nous techniquement comment ça se passe. C'est-à-dire, il y a une chorégraphie, j'imagine, avec les drones qui se coordonnent au millimètre près. C'est quelque chose qui est programmé en amont. Est-ce qu'il y a un pilote, un superviseur? Comment ça se passe en coulisses?
Alors, on a toujours un télépilote référent qui est obligatoire, qui a son diplôme, etc. Et après, on a des observateurs sur site pour vérifier que les drones ne sortent pas de leur zone, tout ça. Mais avant ça, avant du coup le jour J, c'est de la programmation avec beaucoup de 3D. Et en fait, tout est programmé en amont. Il y a des dossiers d'autorisation à gérer aussi en même temps.
Ouais.
Et tout le spectacle est programmé en amont. Ensuite, il est importé dans les drones par réseau. Et en fait, tout se fait sur le site, entre guillemets, tout seul, mais c'est supervisé pour... Pour que les choses passent bien.
Et après, on a ce balai qui est absolument magique, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il génère la même émotion, enfin, les retours que vous avez, en tout cas, du public par rapport à un spectacle pyrotechnique classique? Est-ce que c'est la même magie? Est-ce que c'est les mêmes émotions qui sont générées?
Nous, j'apprécie beaucoup sur les retours qu'on me fait de nos shows, c'est qu'on a des gens qu'on a pu pleurer pendant le spectacle, pleurer de joie.
Oui,
voilà.
Pas de peur, c'est mieux.
Pas de peur.
Sinon, c'est raté.
Voilà, en fait, il y a eu plusieurs émotions avec souvent des tableaux très différents préférés. Et en fait, c'est là où nous, dès qu'on me dit ça, je sens que j'ai réussi mon spectacle parce que la personne a vécu cette émotion-là à ce moment-là ou telle émotion et c'est le principal point.
La contrainte, en revanche, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, des clients, c'est les collectivités. La contrainte, c'est le prix d'un show de ce style. Est-ce que les collectivités ont finalement les moyens d'acheter ça? Combien ça coûte? Et puis, est-ce qu'on pourra aller dans des spectacles d'ampleur, comme en parlait tout à l'heure Anthony, finalement, pour en faire des spectacles à part entière dans les années qui viennent?
On voit déjà qu'il y a un essor des tournées, par exemple, où c'est des spectacles qui durent une heure. Ça, c'est quelque chose qu'on avait prévu là en fin d'année dernière et qu'on n'a pas pu faire. Et en fait, on voit qu'il y a ce type de spectacle-là qui se met en place. Et pour les collectivités, les budgets sont des fois un peu inférieurs au prix de base
affiché
d'un spectacle de drone. Ouais. Et c'est là où, du coup, le marché, du coup, il y a de plus en plus de concurrents, comme on a dit au début. Et ça fait que les prix se régulent un petit peu aussi entre eux, parce que on avait l'avant avec des pionniers où il y avait que 3 sociétés peut-être en France, et là où du coup les tarifs étaient bien plus élevés que maintenant, et où maintenant ça commence à être plus commun.
Démocratiser.
Voilà, démocratiser, merci.
Merci Germain Fidon d'être venu sur notre plateau, président fondateur de Splendid Drone. Dans un instant, la croisière va de mieux en mieux et de plus en plus demander. Ça tombe bien, Patrick Pourbet, directeur général d'MSC Croisière, est avec moi sur ce plateau. À tout de suite.
Good morning business. Parole de patron.
Et je reçois ce matin Patrick Pourbet, directeur général d'MSC Croisières. Bonjour.
Bonjour.
MSC Croisières, 3e plus grande compagnie maritime au monde, 24 navires, 5 continents desservis. Première question, comment se passe l'été? Quelles sont les destinations les plus prisées? Premier bilan au 15 juillet.
Bilan, c'est encore un peu tôt pour le faire, mais on est quand même ravis depuis un mois et demi à peu près, puisque quand même la période du printemps a été un peu compliquée pour tout le tourisme globalement, mais pour nous aussi. Et donc depuis un mois et demi, on voit vraiment une reprise, alors avec un effet quand même réservation plus dernière minute qu'avant. Un peu plus.
C'est l'impact du conflit au Moyen-Orient. C'est quoi ? C'est le pouvoir d'achat. Absolument. Aussi.
Et c'est un mélange des deux, je pense. Mais l'impact quand même du conflit au départ, et puis en effet, les Français regardent leur budget de près.
Quel est le profil du voyageur MSC Croisière aujourd'hui ?
Alors, ce qui fait la particularité de MSC Croisière, c'est qu'on n'a pas qu'un profil. On a une multitude de profils. On a le couple, on a là maintenant, on rentre dans la période d'été, estivale, on a énormément de familles, les voyages tribus de plus en plus, donc toute la famille part ensemble et se retrouve à bord du bateau. C'est un merveilleux lieu de communion, j'ai envie de dire.
L'une de vos actualités cette année, c'est le lancement du MSC World Asia. C'est un colosse des mers, ce sera le plus beau navire, le plus gros navire.
C'est toujours chaque fois le plus beau, puisque les chantiers, et alors on travaille nous énormément avec les chantiers de l'Atlantique, on est le premier client des chantiers de l'Atlantique, sur les 23 navires de la flotte, 18 ont été construits au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Et donc, à chaque fois, évidemment, on arrive à améliorer les capacités du navire. Et l'enjeu principal, évidemment, c'est aussi le respect de l'environnement sur lequel on n'arrête pas d'évoluer, ce qui nous permet d'avoir un parcours de transition environnementale qui est assez positif.
Ce navire-là, en termes d'environnement, justement, il répond à quels critères ? Vous avez installé quoi, précisément ?
Alors, c'est le troisième d'une série de navires, parce que quand on construit un navire de la classe World, là, on a d'abord eu le World Europa, le World America, maintenant c'est le World Asia, il sera ensuite suivi par d'autres navires de la même catégorie. La grande caractéristique, je dirais que depuis la classe World, là, ce sont tous des bateaux qui fonctionnent au GNL. GNL, c'est, on fait les calculs tout de suite, c'est tout de suite 20 à 25% de CO2 en moins. Donc bien sûr, c'est une technologie que l'on prend. Ce n'est qu'une étape, bien évidemment, c'est pas une fin en soi. Mais quand on est capable de brûler du GNL, qui est un gaz, on est capable de brûler des biocarburants, des carburants de synthèse. Et donc ça, c'est évidemment l'avenir encore avec le développement de ces nouvelles source d'énergie.
De façon générale, vous travaillez aussi sur quoi ? L'électrification des ports, tout l'écosystème qui s'électrifie ?
Exactement. Je parlais de ce parcours de la transition environnementale. C'est un parcours qui est long, mais qu'on le voit avec beaucoup d'optimisme. On s'est fixé une ligne suite aux accords de Paris, de zéro émission nette à l'horizon 2050, avec un cap intermédiaire à l'horizon 2030 de réduire de 40%. Fin 2025, nous avions déjà réussi à réduire de 40%. Donc, on est en avance sur ce parcours. Alors, évidemment, le début est plus simple que la suite, mais malgré tout, c'est quand même une étape. Et donc, en effet, dans les différentes facettes qui nous permettent d'y arriver, la connexion à quai est quelque chose d'important. Et elle existe maintenant depuis le mois d'avril à Marseille. 3 quais sont équipés. J'explique parce qu'on se demande ce que c'est, la connexion à quai, mais c'est le bateau arrive dans le port, on coupe les moteurs, on branche une grosse prise, alors c'est une grosse prise, hein, c'est 10 mégawatts, donc c'est quand même beaucoup, et finalement le bateau fonctionne complètement avec cette prise électrique, ce qui veut dire qu'il est zéro émission quand il est à quai, et que donc avec cette prise électrique qui fournit 10 mégawatts, alors en plus en France, puisque c'est EDF derrière et que c'est 99% vert.
Vous allez continuer à faire grossir la flotte, qu'est-ce qui est attendu justement dans les prochaines années ? Il n'y a pas que ces énormes paquebots, hein. Vous avez des tailles un peu plus réduites, un peu plus à taille humaine finalement dans les flottes.
Oui, alors on se segmentise, hein. Donc on a évidemment des différents segments de clients, c'est un peu comme l'hôtellerie, à l'image de l'hôtellerie. Aujourd'hui nous sommes présents avec des très grands navires, mais avec déjà une particularité parce qu'ils sont équipé à l'avant du navire de ce qu'on appelle le Yacht Club, qui était vraiment une zone très très plus haut de gamme, j'ai envie de dire, sur le grand navire, un bateau dans le navire. Et puis, il nous manquait encore un segment que nous n'avions pas encore, c'était le grand luxe. Et en fait, nous avons alors lancé, maintenant il y a 3 ans, une autre marque, Explora Journeys, avec des bateaux plus petits, des palaces sur mer, vraiment, alors constitués que de suites à bord. Et donc ça, c'est aussi une autre façon de voir la croisière.
Demain, le bateau de croisière pourra être électrique ou équipé de biocarburants, peut-être ? C'est à quel terme, ça ?
Les biocarburants, ça, c'est vraiment l'étape suivante, oui. J'ai envie de dire. L'électrification complète, il faudrait des batteries plus performantes encore, donc on n'y est pas encore. On voit que ça arrive, mais c'est pas concret encore. Tandis que les biocarburants, oui, c'est concret. Le seul problème des biocarburants ou des carburants de synthèse, c'est l'approvisionnement. Il n'y en a pas assez aujourd'hui. Nous serions prêts à en commander beaucoup plus s'ils étaient disponibles.
Merci beaucoup Patrick Pourbet d'être venu sur ce plateau, directeur général d'MSC Croisière. Dans un instant, on reparle de ce défilé du 14 juillet, des annonces hier de la coalition des volontaires autour de l'Ukraine qui ont été faites à Paris. À tout de suite, c'est le journal de 8h30.
Good morning business, le journal.
8h31, le journal Léo.
Trois titres à la une, la coalition des volontaires qui se décline en coalition anti-balistique pour l'Ukraine, qui va d'ailleurs acheter 16 rafales à la France. On verra ça dans ce journal. Les États-Unis et l'Iran bataillent pour le contrôle du détroit d'Ormuz. Donald Trump annonce une adresse à la nation dans 48 heures. On sera à Washington. Et puis chez Volkswagen, ce seront finalement 100 000 postes qui seront supprimés.
Et on va parler de la coalition des volontaires dans un instant, mais on va revenir avant cela sur Emmanuel Macron qui prononçait hier son traditionnel discours aux armées, Léo.
Oui, juste avant le 14 juillet, on a profité pour appeler à ne pas céder au nationalisme industriel en matière de défense après l'échec du SCAF, l'avion de combat franco-allemand. C'est profondément regrettable, dit le président. Alors maintenant, quelle est la suite pour l'aviation de combat française? La réponse ce matin d'Alexandre Lahousse, le directeur adjoint de la Direction Générale de l'Armement sur BFM Business.
L'arrêt du SCAF, c'est dommage pour l'Europe. Le président de la République l'a dit encore hier dans son discours à Brienne. Pour la France, nous, on va dérouler parce qu'on sait faire des avions de chasse et on va continuer à chercher des partenaires, d'autres partenaires, parce qu'on reste dans l'ADN de la construction européenne. Évidemment, il y a les partenariats comme on faisait avant, des coopérations sur des projets, il y a des partenariats stratégiques, ça veut dire des achats sur étagère. On a fait le choix, nous, la France, d'acheter un avion de surveillance aérienne à la Suède, le Global Eye. Et puis, je dirais, dans la coopération, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle les chaînes de sous-traitance croisées. C'est un peu coopérer autrement pour être à l'heure du rendez-vous.
Les attaques se poursuivent pendant ce temps au Moyen-Orient, Léo, sur fond de bataille pour le contrôle du détroit d'Ormuz.
Les Américains disent avoir frappé des cibles militaires cette nuit, notamment le long des côtes iraniennes. Téhéran, de son côté, a visé ses voisins du Golfe et des navires dans le détroit d'Ormuz, où Donald Trump annonce le rétablissement du blocus américain et même l'arrivée d'une taxe sur les navires qui transitent. De quoi donc faire s'envoler les cours du pétrole, $84 ce matin, le baril de Brent, 79 le WTI. Et on surveille ça de très près à Washington, où vous êtes, Laurent Saïm.
Il y a 15 jours, le prix de l'essence ici, dans la rue principale de Washington, n'était pas à $5,59, mais $3,40. Et depuis hier, eh bien, ce prix de l'essence, ainsi que le pétrole, ne cesse d'augmenter. C'est important pour Donald Trump, qui hier, de manière extrêmement surprenante, en fin d'après-midi, a annoncé sur son réseau social la reprise de bombardements très forts contre l'Iran dans les 24 à 48 heures. On ignore pour le moment l'étendue des dégâts. On sait encore une fois que le CENTCOM, le centre de commandement militaire, a confirmé que les bombardements frappaient les infrastructures iraniennes sans, comme toujours, donner le bilan de civils tués ou blessés. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, personne ne sait, si ce n'est que Donald Trump a décidé de s'adresser à la nation jeudi. Une nation qui est anxieuse de savoir si, bien évidemment, la guerre en Iran va se poursuivre, de quelle manière, est-ce que ça va durer longtemps. Donald Trump le sait, car encore une fois, avec ce prix de l'essence extrêmement élevé pour les Américains, cette guerre est plus impopulaire que jamais.
Laurent Saïm à Washington pour BFM Business. Il est 8h34. On revient sur le sommet d'hier à Paris et la coalition des volontaires qui veut aller plus vite et plus fort pour mettre la pression sur la Russie. Alors ça va passer par plus d'aide militaire en faveur de l'Ukraine et notamment cette annonce forte, Margot Fodéré, la création d'une coalition anti-balistique.
Oui, avec un projet phare au cœur de cette initiative, c'est le projet Freya. C'est un programme qui est purement défensif et qui vise à développer les capacités anti-balistiques des Ukrainiens face aux Russes. Alors très concrètement, 9 pays dont la France et l'Allemagne s'engagent à mettre en commun leur base de défense industrielle pour développer une alternative moins chère aux patriotes américains ou bien aux missiles Aster franco-italiens. Le projet sera piloté par l'entreprise ukrainienne Firepoint qui doit donc développer ce missile dans les 12 mois à venir avec aussi le défi de produire en grande quantité. Toujours sur le volet anti-aérien, Kiev va également se doter d'une première série de batteries sans péter de nouvelle génération. Ce sont des systèmes de défense aérienne co-conçus par l'Italie et la France. Et la France d'ailleurs qui va fournir 16 avions de combat Rafale qui doivent voler d'ici à 2 à 3 ans.
Voilà pour les moyens aériens, Margot, mais d'autres capacités vont aussi être renforcées.
Absolument, sur les moyens au sol d'abord, la force multinationale qui sera déployée en Ukraine après le conflit va démarrer ses exercices
exercices dans les prochains mois, des exercices qui vont avoir lieu dans les pays voisins, selon Emmanuel Macron. Et puis les Européens ont également promis hier de mieux lutter contre la flotte fantôme de pétroliers russes qui permettent à Moscou de financer son effort de guerre. Et toujours sur le volet financier, Londres aussi a annoncé rejoindre le prêt européen de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine.
Merci Margot Faudéré. Le séisme s'annonce deux fois plus fort que prévu chez Volkswagen, Léo.
50 000 emplois de plus pourraient être supprimés selon une note interne du PDG qui a fuité, ce qui porterait à 100 000 le nombre de postes menacés dans le monde et 4 le nombre d'usines destinées à fermer. Et c'est sans compter les répercussions sur le reste de la chaîne. Alors ces réunions de crise aujourd'hui en Italie où les équipementiers locaux sont particulièrement dépendants des commandes allemandes. Alors le ministre des entreprises réunit la filière pour tenter de réagir à temps, Alexandra Paget.
Près de 20% des composants d'une voiture assemblée en Allemagne proviennent d'usines italiennes. De nombreux équipementiers en Lombardie, en Vénétie, dans le Piémont fournissent pièces et composants à Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz. Donc quand Volkswagen notamment, en butte à une concurrence des constructeurs chinois de plus en plus féroce, baisse ses cadences, les volumes de commandes des fonderies fabricants d'échappements de transmission du nord de l'Italie chutent aussi. Le géant Marelli, principal équipementier italien, a dû engager une procédure de restructuration. Brembo, fournisseur de Volkswagen et Porsche, réputé pour ses systèmes de freinage, tire son épingle du jeu grâce à sa présence dans le haut de gamme. Mais la plupart des PME qui n'ont souvent qu'un seul client sont les plus vulnérables. Rome veut donc accompagner la modernisation de ses petits équipementiers avec un plan d'aide pour leur permettre de se diversifier. Le représentant des industries du secteur plaide, lui, pour une riposte de l'Union européenne aux pratiques très agressives de Pékin et pour des droits de douane ciblés afin de rétablir une concurrence équitable.
Et en attendant, l'Europe va bien légiférer sur l'accès des réseaux sociaux aux mineurs. Après la remise hier d'un rapport d'experts très attendu à Bruxelles, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, s'est engagée à présenter une nouvelle proposition de loi juste après l'été. Mais quelques grands principes ont déjà été posés, Caroline Morisseau.
Alors qu'une vingtaine de pays en Europe a déjà commencé à s'attaquer au sujet, la présidente de la Commission européenne veut harmoniser les règles d'accès à Internet pour les mineurs partout en Europe. Tout cela se fera de manière graduée en fonction de l'âge. En dessous d'un certain âge, l'accès sera totalement interdit, à quelques exceptions près, a expliqué Ursula von der Leyen, même si elle a bien conscience qu'en pratique, cela risque d'être compliqué.
Évidemment, cette solution ne sera pas infaillible. Il faudra du temps pour enraciner ce changement culturel qui a déjà pris forme dans nos sociétés, comme il a fallu du temps pour interdire la conduite en état d'ébriété ou imposer la ceinture de sécurité. Cela nous prendra du temps, mais quand il s'agit de sécurité, le jeu en vaut la chandelle.
La présidente de la Commission n'a pas donné plus de détails, mais les experts, eux, préconisent de fixer cet âge à 13 ans. Libre aux pays de l'Union d'aller au-delà s'ils le souhaitent. Quant au contenu concerné, Ursula von der Leyen vise non seulement les réseaux sociaux, mais aussi d'autres fonctionnalités qui peuvent être addictives. Les experts pointent notamment les assistants d'intelligence artificielle.
8h39, les marchés. À 20 minutes de l'ouverture, Nicolas, on est comment ?
On attend des marchés européens qui sont toujours orientés dans le rouge selon les contrats futurs à l'heure actuelle dans un contexte de hausse des prix du pétrole. Le baril de Brent vient de repasser au-dessus des 85$. Le WTI, lui, vient de passer au-dessus des 80$ dans un contexte de marché moins optimiste sur une désescalade rapide des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Cette nuit, il y a une nouvelle salve de tirs américains. Troisième nuit consécutive de tirs donc dans le détroit d'Ormuz. Les prix du pétrole ont bondi de 9% et parmi les explications sur cette hausse des prix du pétrole, on peut aussi y trouver une taxe annoncée par Donald Trump de 20% sur la valeur de la cargaison perçue par les États-Unis pour assurer le transit dans le détroit d'Ormuz. Donc toujours avec cette idée qu'il est dangereux pour les bateaux de transiter par Ormuz et que ça coûte plus cher donc d'acheminer du pétrole. Ça a eu une incidence sur les taux américains. Les taux américains se sont légèrement tendus. Le 10 ans américain est aux alentours de 4,62. Le 30 ans américain aux alentours de 4,67. Et l'OAT 10 ans est aux alentours de 3,93 à l'heure où on se parle. On voit donc que on a une tension là aussi sur l'OAT. Mercredi dernier, lorsque les prix du pétrole avaient augmenté, on était monté jusqu'à 3,92. Donc ça montre une certaine vigilance quand même des marchés. À suivre aujourd'hui sur les marchés, justement, on aura Kevin Warsh, le nouveau président de la Fed, qui s'exprimera devant le Congrès américain en lien avec le dernier rapport semestriel sur la politique monétaire de la Fed. Ça donnera un certain nombre d'indications sur la potentielle politique monétaire de la Fed à suivre. On aura l'indice de l'inflation aux États-Unis, l'indice CPI qui sera publié aujourd'hui. On aura beaucoup de résultats de banques américaines qui ouvriront la saison des résultats. Autant d'éléments qu'il faudra suivre tout au long de la journée.
Merci Nicolas, on se retrouve dans un instant. De toute façon, n'allez pas très loin, c'est le club de la bourse et Good Morning Market dans un instant. Mais tout de suite, le monde qui bouge.
Good Morning Business, le monde qui bouge.
Et avec Annalisa Capellini, nous partons en Italie. La présidente du Conseil, Giorgia Meloni, présente aujourd'hui au Parlement son projet de réforme électorale. Alors officiellement, l'objectif, c'est de garantir des gouvernements stables. Officieusement, qu'est-ce qui pourrait changer, Annalisa ?
Alors sur le papier, il n'y a pas de grands changements. C'est du moins ce que défend la majorité de Giorgia Meloni. Les Italiens vont continuer à voter pour des listes de partis et avec un système proportionnel. En réalité, il y a quand même une grande nouveauté, c'est qu'il y aurait un bonus de siège pour la coalition arrivée en tête. C'est ce qu'on appelle un prix de majorité. Concrètement, la coalition qui arrive à avoir 42% des voix va remporter aussi des sièges supplémentaires au Sénat et à la Chambre des députés. On parle d'une centaine de sièges supplémentaires au total. Ça représente un cinquième des sièges qui existent aujourd'hui à la Chambre et au Sénat, en sachant que le reste sera distribué de manière proportionnelle parmi les autres partis. Alors pour Giorgia Meloni, c'est assez clair, c'est la meilleure façon d'avoir une majorité solide et claire et donc d'éviter les crises politiques à répétition. Elle le dit très clairement, elle l'a dit il y a quelques jours en parlant de cette réforme. Hier, l'Italie était un pays instable au sein d'une Europe plus stable. Aujourd'hui, l'Italie est perçue comme un pilier de stabilité sur le continent. Et puis, il y a un autre changement. Les partis doivent annoncer avant l'élection avec qui ils comptent gouverner et donc qui sera aussi leur candidat à la présidence du Conseil. Ça, c'est un changement majeur parce qu'il n'y aura plus d'alliance possible après les élections. Tout va se jouer en amont. Là aussi, c'est pour éviter des longs mois de tractation après les élections et donc, encore une fois, l'instabilité.
Sur le papier, ça s'entend. Absolument. Comment c'est pris en Italie, Annalisa ?
Eh ben assez mal du côté de l'opposition. Il suffit de regarder le surnom qui a été donné à cette loi électorale. La coalition de Meloni l'appelle le Stabilicum, avec cette idée, encore une fois, de stabilité politique. L'opposition, elle, parle de Melonellum, donc une loi conçue par et pour Giorgia Meloni pour l'aider à se maintenir au pouvoir. Ça ne vous a pas échappé que la première fois que ce système électoral serait utilisé, s'il passait, ça serait l'année prochaine, en 2027, pour les élections. Pour la gauche italienne, donc, c'est très clairement une tentative de la part de Giorgia Meloni de se maintenir au pouvoir, de truquer quelque part les règles du jeu. En l'état, c'est vrai que sa coalition de droite a une toute légère avance sur la coalition de gauche. Donc, si on gardait le système qui existe aujourd'hui, eh bien ça donnerait dans les faits un Parlement très divisé, très fragmenté, quelque part à l'image du Parlement français, mais dans une démocratie parlementaire comme l'Italie, ça donne une instabilité encore plus importante et on a vu que l'Italie a déjà connu des situations d'instabilité ces dernières années.
Alors elle veut sécuriser l'avenir, Giorgia Meloni, pourtant elle est en position de force.
Oui, mais c'est vrai qu'elle a depuis longtemps cette idée de stabilité. Elle a abandonné le projet, mais à un moment, elle pensait même créer un Premier ministre élu au suffrage universel, donc changer complètement la forme de la République italienne. Donc cette idée a toujours existé pour elle. Et c'est vrai, vous l'avez dit très justement, elle a une stabilité politique assez époustouflante pour un gouvernement italien. C'est vrai qu'elle est toujours appréciée par ses électeurs. Elle est créditée d'un peu moins de 30% des voix dans les sondages. Elle est très loin devant le Parti démocrate de gauche, qui est le premier parti d'opposition. Mais elle commence quand même à se battre pour sa réélection face à des ennemis qui commencent à se présenter sur sa droite, notamment le général Roberto Vannacci, qui a fondé un petit parti qui monte rapidement dans les sondages et qui peut menacer Giorgia Meloni sur une partie des voix de la droite radicale. Ce que Giorgia Meloni veut à tout prix éviter, surtout parce que son gouvernement détient un record. Pour l'instant, c'est le plus durable des 15 dernières années en Italie. Et dans toute l'histoire de l'Italie républicaine, il y a eu un seul homme qui a su faire mieux qu'elle, qui a su faire durer un exécutif plus longtemps, c'est Silvio Berlusconi, de 2001 à 2005. Lui aussi avait créé une loi électorale avec un prix de majorité. Loi électorale retoquée car inconstitutionnelle. Giorgia Meloni, elle, espère échapper à l'inconstitutionnalité et donc dépasser, même en termes de longévité politique, Silvio Berlusconi.
C'est effectivement assez ambitieux. Merci beaucoup, Annalisa Capellini. Chronique, évidemment, à retrouver sur notre appli et notre site Le Monde qui bouge. Dans un instant, le club de la Bourse avec Nicolas Pagnès. Nous recevons Christian Parizeau, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC, et Nour Bendimered, directeur des investissements chez Investa Family Office. On va parler évidemment des prix du pétrole, de ce qui se passe à Hormuz, des grands rendez-vous de la journée également. Restez avec nous.